Bonjour Elisabeth.
Bonjour William.
Nous serons dans quelques instants en ligne avec Ludivine Bantini, puisque nous avons une double information à vous communiquer. La création d'une antenne d'attaque dans le sud Aveyron et aussi et surtout, le mardi 28 avril à la maison de ma région à Millau, la présentation d'une conférence débat de l'historienne Ludivine Bantini ayant pour thème « Connaître l'extrême droite pour mieux la combattre ». Avant de parler de cette conférence débat, Elisabeth, peux-tu nous rappeler l'objet de l'association ATTAC ?
Eh bien, ATTAC, c'est une association indépendante qui a été créée il y a presque 30 ans, en 1998, qui milite pour la justice fiscale. Hein. Tout le monde se rappelle, en fait, du combat contre les transactions financières, pour la justice sociale, pour la justice écologique, la démocratie, une société débarrassée du patriarcat, du racisme et de toute oppression, comme l'impunité des multinationales. Voilà, c'est une association, donc, je l'ai dit, indépendante. C'est un mouvement, en fait. C'est un mouvement d'éducation populaire. Ça, c'est très important. Et c'est à ce titre-là, en fait, que les gens sont également très, très intéressés pour participer à cette association ATTAC.
ATTAC est présent en Aveyron depuis 1999. Donc, très peu de temps après la création nationale. Quelles ont été les raisons de la création de ce groupe ?
À l'époque, moi, j'étais pas forcément là, mais en fait, je pense que c'est la dynamique Larzac et la dynamique après le démontage du McDo qui a sensibilisé beaucoup de personnes et qui se sont demandé comment militer avec les valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, il y avait parmi ces gens-là, des gens qui travaillaient devant les impôts, aux impôts, et qui étaient donc forcément bien placés pour savoir ce que c'était que la taxation des transactions financières et travailler sur ce thème-là, quoi.
Alors, 99, tu le disais, c'était il y a presque 30 ans, c'était le siècle dernier, d'ailleurs. Dernièrement, quel type d'actions ont été menées par l'association ?
Alors, s'il faut expliquer, alors là tu parles du local, hein, faut expliquer que cette association locale, elle a en fait fonctionné un certain temps et puis elle s'est arrêtée, assez longtemps d'ailleurs, et c'est surtout sur la zone de Rodez qu'en fait ATTAC fonctionne actuellement. Il y a des adhérents d'ATTAC donc dans le sud Aveyron qui seront également investis dans d'autres organismes, mais qui ont souhaité relancer un groupe sur Millau. Et donc sur Rodez, eh ben, effectivement, le porte-parole d'ATTAC est à Rodez. Et donc les dernières actions que le groupe a fait, eh bien, il y a eu une contribution à la journée de lutte des droits des femmes. C'est un des axes importants d'ATTAC, hein, après une animation du film « Les soulèvements de la terre ». Donc ça, c'était ça le comble. Et puis ben des rassemblements donc contre le racisme. Et je crois qu'il, et puis il y a eu une action aussi auprès des listes, un certain nombre de listes municipales. ATTAC France avait posé une dizaine de questions aux listes municipales, et donc en fait il y a un certain nombre de listes qui ont répondu sur le Nord Aveyron.
Alors paradoxalement, donc ATTAC 12 est né dans le sud Aveyron. C'est parti vers Rodez, j'imagine qu'il y a encore, tu en fais partie d'ailleurs, des adhérents qui sont restés en sud Aveyron. Et la conférence débat que vous organisez le 28 avril, c'est un peu annoncer le retour de l'association dans le sud Aveyron, ou une renaissance du...
Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est en fait de pouvoir refaire des adhérents. On se dit qu'en fait, il y a peut-être beaucoup de gens qui se posent la question de comment militer aujourd'hui, et que ATTAC peut peut-être leur ouvrir des perspectives sur des thèmes qui les touchent. Donc là, on va parler d'extrême droite, mais bientôt, on va parler du climat. Donc en fait, voilà, l'idée, c'est effectivement de relancer un groupe. Une des caractéristiques d'ATTAC, c'est de travailler aussi avec les autres associations, organismes, syndicats, et donc pour rassembler, hein, l'idée c'est aussi de rassembler, voilà, et donc ça nous a motivés.
Et d'apporter une proximité pour les militants.
Et voilà.
Connaître l'extrême droite pour mieux la combattre est le titre de cette conférence débat. Pourquoi avoir choisi ce thème, Elisabeth ?
Le risque d'extrême droite est vraiment très fort. Et on va bientôt voter, en fait, donc pour les présidentielles. Tout le monde s'active un petit peu par rapport à cette problématique-là. On a vu donc récemment également que la culture, avec ce qui se passe avec Bolloré, en fait, était déjà un pas énorme par rapport à l'avancée de l'extrême droite. Donc, en fait, ça préoccupe beaucoup de monde qui ont mis la voix, bien qu'en fait, il n'y ait pas de liste d'extrême droite à Millau. C'est un sujet qui préoccupe, oui.
Alors, nous avons la chance d'être avec Ludivine Bantini. Un grand merci à vous pour avoir accepté cet entretien.
Merci beaucoup à vous, au contraire. Merci.
Ludivine, vous avez fait des études d'histoire et de lettres. Vous êtes agrégée et docteur en histoire, habilitée à diriger des recherches. Vous avez été enseignante-chercheuse à l'Université de Rouen et depuis quelques années, vous avez choisi d'intervenir dans le secondaire en collège. Alors, ce choix m'a surpris. Quelle en est la raison?
Les raisons sont multiples, mais j'avais déjà envie de découvrir un peu plus les élèves plus jeunes. Je trouve que c'est beaucoup plus humain finalement qu'à l'université parce que on a des élèves qu'on connaît très très bien en collège. J'avais envie de découvrir une autre facette du métier et en effet c'est quand même un métier très différent. Et puis je trouve que à certains égards l'université est devenue quand même assez individualiste comme système en tout cas, comme institution. Assez compétitive, de mise en concurrence des personnes entre elles. Et c'est en particulier pendant la crise du Covid, quand on faisait beaucoup de cours en visioconférence, que je me suis décidée à démissionner de l'université pour découvrir cet univers des plus jeunes. Et à vrai dire, ça fait 5 ans, mais je n'ai jamais regretté. Donc ça ne m'empêche pas de continuer la recherche en histoire. Mais voilà, c'est une grande, grande motivation que d'enseigner auprès de jeunes, en particulier de quartiers populaires. Et c'est plein de vie. Voilà, on les connaît beaucoup mieux que les étudiantes et les étudiants, malheureusement, parce que c'est plus anonyme l'université. Donc voilà, de regret par rapport à ce choix.
C'est tout à votre honneur. Vous êtes considérée comme une spécialiste de l'histoire des luttes. Vous avez beaucoup travaillé sur la Commune de Paris, sur mai 68, qui a été le sujet de votre mémoire pour l'obtention de votre habilitation à diriger des recherches. Mémoire intitulée 1968 de Grand Soir en Petit Matin. Quand et comment vous est venu ce goût pour l'histoire et plus particulièrement pour l'histoire des luttes?
Ah oui, ce sont deux étapes finalement très très différentes. La première étape pour moi, c'est vraiment dès l'enfance, la fascination pour les lieux de mémoire, comme on le dit aujourd'hui depuis déjà plusieurs décennies, les vestiges du passé. J'étais assez fascinée quand j'étais enfant par les cimetières, par le rapport à la mort. J'avais l'impression que les vivants et les morts finalement communiquaient. Alors, je suis pas du tout spirit, hein, pas du tout mystique, mais en tout cas qu'il y avait une sorte de vie des morts au travers de la mémoire et au travers de ces lieux où on continue d'honorer les morts. Et j'étais en particulier très frappée dans un petit cimetière familial où on voyait hommages à ces jeunes hommes morts pendant la dite Grande Guerre. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée, ça m'a marquée très profondément. Et puis, bien plus tard, quand je suis devenue adolescente et puis jeune adulte, là, je me suis mise vraiment à m'engager au cœur des mouvements sociaux, à devenir beaucoup plus sensible à la question des injustices sociales, à la question des oppressions, des formes d'exploitation. Et je me suis dit que vraiment mon travail d'historienne allait être consacré à justement toute cette histoire des soulèvements populaires, des mouvements révolutionnaires, comment des hommes et des femmes se battent avec courage pour plus de justice et de dignité, pour l'émancipation.
Vous parlez évidemment de lutte, de soulèvement, d'émeutes, révolte, de révolution. Vous pourriez nous aider à classer ces mots? Enfin, je veux dire, y a-t-il une espèce de hiérarchie entre ces formes que je pourrais appeler de résistance?
Disons qu'il y a une hiérarchie par les conséquences qu'elles peuvent avoir. Les mouvements sociaux incluent aussi bien des mobilisations, somme toute assez classiques mais fondamentales, ce qu'on a appelé longtemps le mouvement ouvrier, avec les organisations syndicales, bien sûr, qui continuent de jouer un rôle majeur dans certains de ces mouvements sociaux, dans l'histoire des gauches et du peuple de gauche, des gauches qui sont elles-mêmes diverses, mais on peut vraiment parler de la gauche au sens pas seulement des partis politiques, mais aussi des collectifs, des coopératives, des mouvements de solidarité, et donc bien sûr des syndicats, donc les mouvements sociaux, des manifestations, des grèves. Je me suis intéressée en particulier à tous les moments où il y a eu des grèves très généralisées, ou des occupations de lieux de travail qui subvertissent vraiment ces lieux. Et puis après, on peut distinguer des révoltes qui parfois se transforment en insurrections. Parfois, là, il peut y avoir un affrontement plus direct, plus brutal, un rapport de force conséquent qui peut parfois passer par une forme de violence par rapport au pouvoir, par rapport aux autorités, par rapport aux différentes formes de domination. Donc les insurrections, les révoltes, hein, on les connaît par leurs barricades, notamment au XIXe siècle. Et enfin, on peut considérer que ces insurrections, ces révoltes deviennent révolutions lorsqu'elles parviennent justement à renverser le pouvoir en place, lorsqu'elles renversent à la fois éventuellement des institutions, un régime, et lorsqu'elles, parfois même, quand elles sont radicales, elles vont à la racine d'un système social et économique, et donc là, elles peuvent aussi s'en prendre aux rapports sociaux, de production, aux rapports de propriété. Voilà, c'est ça la différence, disons, entre une révolte et une révolution. C'est, en général, une révolution, c'est une révolte qui a réussi parce qu'elle a poussé au bout sa logique de renversement de la domination.
Les luttes, vous ne faites pas que les étudier, vous y participez aussi. Nuit debout, gilets jaunes, les soulèvements de la terre. Votre présence à Millau auprès d'Attac en est la preuve. Vous avez écrit « Face à la menace fasciste », c'était en 2021. Plus récemment, « Battre l'extrême droite ». Alors, connaître l'extrême droite pour mieux la combattre, qui est le titre de la conférence débat. Comment allez-vous aborder le sujet ?
Alors, c'est vrai que moi, j'écris deux types d'ouvrages. D'un côté, j'écris des ouvrages d'histoire qui sont fondés sur des recherches de longue haleine, hein, sur beaucoup de sources, etc. Et puis, d'un autre côté, j'écris aussi, j'essaye en tout cas, et puis on me propose parfois de le faire dans des maisons d'édition, des essais politiques que j'espère un peu incisifs, avec un style un peu vif, parce que c'est souvent, ça part souvent de colère, de révolte, d'indignation. Et donc, « Battre l'extrême droite », c'est un livre qui m'a été commandé pour... La collection qui venait d'être lancée Carton Rouge par les éditions du Croquant, qui sont une belle maison d'édition indépendante où beaucoup de gens travaillent de manière souvent bénévole avec beaucoup de ténacité et de détermination. Et donc évidemment, j'ai répondu présente pour contribuer à lancer cette collection Carton Rouge, Battre l'extrême droite. Alors il s'agissait vraiment de partir... en fait, de ce que j'appellerais une imposture de cette extrême droite, une sorte de forfaiture, une sorte d'escroquerie monumentale, puisque l'extrême droite prétend satisfaire les classes populaires, dont une bonne partie, évidemment, on le sait, vote pour elle. Mais je pense vraiment qu'il faut documenter le plus précisément possible le programme, le projet, les mesures proposées par le Rassemblement national, en l'occurrence, mais le comparer aussi à l'échelle internationale, puisqu'on a une extrême droitisation malheureusement généralisée à l'échelle mondiale. Donc documenter précisément ces mesures, montrer à quel point elles sont antisociales, montrer à quel point, en fait, bien loin d'aller dans le sens des intérêts des classes moyennes et des classes populaires, elles font en réalité le jeu des plus puissants, des plus riches, en termes aussi bien de politique économique, de politique fiscale. Ça va encore plus loin finalement que la droite au pouvoir, hein. Donc ça, il s'agit d'analyser très très précisément. De montrer qu'il y a des liens de plus en plus étroits entre ce Rassemblement national comme d'autres organisations d'extrême droite dans le monde et en Europe en particulier, avec le grand patronat. On l'a encore révélé ces dernières semaines, les déjeuners d'affaires de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella avec les plus grands patrons français. Oui. Et donc, le deuxième aspect, c'est vraiment d'étudier très précisément leur médiatisation, comment cette médiatisation, que je vois vraiment comme une sorte de machine de guerre, contribue à les banaliser, on le sait bien, à les normaliser, y compris en essayant de leur extirper leur étiquette d'extrême droite, alors qu'il s'agit évidemment bien d'une extrême droite. Et là encore, ça rejoint le premier point, hein, sur ces grandes fortunes à la manière de Bolloré ou de Sterrin, qui financent ces chaînes, qui possèdent ces chaînes, lesquelles chaînes font justement la mise en scène, la mise en spectacle de cette extrême droite. Donc là aussi, ça signifie bien que ce sont des intérêts puissants qui sont en jeu. Donc ça, c'est disons le deuxième aspect, hein, c'est vraiment essayer de comprendre cette médiatisation. Un troisième aspect porte sur le finalement, bon, on n'a pas essayé, c'est une phrase qu'on entend souvent, on n'aurait pas essayé, mais si, hein, l'extrême droite, non seulement on l'a essayé en France, avec la période pétainiste entre autres, mais on l'essaye un peu partout dans le monde, et ce sont vraiment souvent des reculs extrêmement graves, justement pour la population dans son ensemble, outre que ça accentue encore les discriminations de toutes sortes. C'est extrêmement grave pour l'ensemble des associations qui défendent un minimum de droits humains et de justice sociale. Et puis le dernier aspect quand même, parce que je pense qu'on peut pas uniquement s'opposer à l'extrême droite, mais il faut lui opposer un projet, il faut lui opposer une alternative, des stratégies de solidarité. Donc c'est se pencher vraiment sur nos projets, à nous, nos programmes, au-delà des divergences des gauches et de leurs querelles parfois, malheureusement, et de leurs divisions. Mais c'est vraiment, il faut pas oublier, parce que parfois on entend « la gauche n'a pas de projet », c'est faux. Il y a vraiment un projet émancipateur, et donc il s'agit de le rappeler et puis de donner beaucoup d'exemples, à l'instar de ce que fait Attac, beaucoup d'exemples de ces formes de solidarité active qui sont le meilleur contrepoison à l'extrême droite.
Justement, est-ce que la solution, elle va arriver par les partis ou par des groupes comme plutôt citoyens, comme je pense à Attac, je pense à Accor, ou localement, des associations proches des gens en fait?
Bien sûr, moi je pense qu'il faut faire flèche de tout bois, vraiment, je pense qu'il faut essayer d'abandonner le plus possible le sectarisme et le cloisonnement, c'est-à-dire que en fait certains vont construire des syndicats, certains vont construire des associations, des coopératives, des manières très locales de vivre autrement, de produire autrement, de consommer autrement. D'autres vont choisir justement de s'investir plutôt dans les partis politiques, dans une perspective électorale. Mais de plus en plus dans ces partis politiques, il y a vraiment une articulation entre les élections et les luttes sociales. En fait, les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale du côté des gauches, de certaines fractions de ces gauches, on les voit aussi dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, dans les rassemblements, sur les piquets de grève, etc. Donc, je pense qu'il faut voir la situation comme une espèce de mosaïque, comme une sorte de puzzle, et chaque pièce compte, chaque pièce va s'emboîter avec les autres. Et donc, voilà, c'est un constat, et c'est pas plus mal qu'on ait des propositions, des pratiques très différentes, mais in fine, ça dresse un tableau qui est très vivant pour contrer justement non seulement l'extrême droite, mais aussi les politiques de brutalisation antisociale qui expliquent justement les succès de l'extrême droite.
Donc ce sera bien le sujet de la conférence débat du 28 avril. J'avais quelques questions, peut-être plus peut-être une analyse un peu de l'actualité politique. Alors, j'avais envie de jouer un peu sur les mots, le titre de votre mémoire, 1968, de grand soir, un petit matin. Alors, est-ce un grand soir, un petit matin? Aux dernières municipales, l'élection d'héritiers de l'immigration, hommes et femmes, pour reprendre les propos de Bali Bagayoko, élu maire de Saint-Denis, Pierre Fitte, permettent à la fois un espoir démocratique, mais aussi ont permis de révéler la face la plus laide de notre société. Comment vous analysez ce déferlement de réactions racistes qui ont suivi, remettant en cause quelque part la légitimité de ces personnes à être élues?
Oui, on est au cœur de la contradiction majeure de la société française, et je trouve que cette période des municipales, au-delà de la dimension strictement électorale, forme vraiment un enjeu majeur pour réfléchir à nos pratiques et à nos stratégies. D'un côté, il y a en effet une forme de révélation supplémentaire d'une sorte de racisme structurel, d'un racisme systémique qui est de plus en plus mis au jour. Et par exemple, pour ce qui concerne l'électorat d'extrême droite, je pense notamment aux travaux de Benoît Coquart ou de Félicien Fleury qui ont bien étudié l'électorat et les motivations de cet électorat. Bien sûr, ces motivations sont diverses, mais de plus en plus, il est bel et bien question, malheureusement, d'un facteur premier qui est le racisme, et d'une façon qui est en fait déconnectée de la réalité sociale. En l'occurrence, souvent sur des territoires où il n'y a pas de personnes, justement, comme le dit Bagayoko, héritières de l'immigration. Et c'est normal d'ailleurs. Moi, je suis là pour dire « Ah, mais oui, mais c'est bizarre, les gens votent, les gens sont racistes alors qu'il n'y a pas de population, on va dire, racisée, même si le terme mérite débat. » Dans ces endroits où on vote et extrême droite et où on est raciste. Mais c'est justement dans les endroits où la population est bien plus mélangée que le racisme est le moins fort, parce qu'on apprend tout simplement que c'est tout à fait banal et qu'on est bien ensemble et qu'on vit ensemble. Ce moment des municipales avec tout ce déversoir raciste, mais très alimenté par les réseaux d'extrême droite, par les réseaux sociaux, mais aussi les chaînes d'information en continu, évidemment par le réseau Bolloréen, Zemmour qui a continué à soutenir des choses parfaitement fallacieuses en les assumant, en assumant le mensonge, à propos notamment d'une phrase qui a été prêtée à Bali Bagayoko, oui, qui était fausse. Hein,
Et en faisant un jeu de mots sur son nom, puisqu'il dit Bali Baga Balek.
Balek, oui,
c'est pas rien. Et par contre, quand Mélenchon parle de Epstein ou Epstein, alors là, on en fait des gorges chaudes.
Oui, bien sûr. Et c'est là que c'est aussi un révélateur d'un traitement médiatique complètement différencié qui est aberrant. Hein. Ça, il faudra en parler aussi dans cette soirée, dans cette réunion publique, hein, parce que quoi qu'on pense, où qu'on se situe à gauche, il y a quand même un énorme problème et il faut qu'on soit solidaires par rapport au déferlement de haine, y compris médiatique, que subit la France insoumise et que subit Jean-Luc Mélenchon en particulier, c'est clair. Et en fait, moi, ça me fait penser, mon dernier livre porte sur l'histoire du Front Populaire, et quand même, et je suis évidemment pas la seule à le penser, c'est pas particulièrement original de le dire, ça me fait vraiment penser à la formule qu'on utilisait à la fin des années 30, plutôt Hitler que le Front Populaire. Toute proportion gardée, bien sûr, hein, Bardella et Le Pen ne sont pas Hitler, mais en tout cas, c'est vraiment tout sauf la gauche et tout sauf une vraie gauche qui propose un programme alternatif. Donc il y a eu ça en termes de révélation. Bien sûr que ce racisme issu d'une longue histoire esclavagiste et coloniale continue d'être prégnante. Et puis par ailleurs, c'est aussi très alimenté par des médias qui ne se focalisent que sur des faits divers impliquant des héritiers et héritières de l'immigration ou des immigrés directs. Mais d'un autre côté, justement, c'est aussi une période qui est porteuse d'espoir, qui est porteuse d'enthousiasme.
Oui,
il y a beaucoup d'initiatives.
La chute d'Orban.
Oui, bien sûr.
Dans un pays où ils ont essayé effectivement l'extrême droite pendant 16 ans.
Exactement. Et c'est vrai qu'on pouvait penser, et on a pu le penser d'ailleurs pendant toutes ces années, Orban, en fait, il a tellement fait pour abîmer la démocratie, parce que c'est ça aussi l'extrême droite, hein, c'est que, en fait, souvent, elle méprise la démocratie. C'est toute une tradition qu'on peut faire remonter au moins à Mussolini, et encore plus loin à l'Action française de Charles Maurras, laquelle l'Action française était anti-républicaine, monarchiste, et qui détestait non seulement la République et ses droits, mais aussi la démocratie en tant que le peuple et agissant politiquement dans une perspective démocratique. Mussolini considérait que la démocratie était un régime de faible et il assumait de la rejeter et de vomir sur la démocratie. En fait, Orban l'a montré aussi en Hongrie pendant son véritable règne. Il a porté atteinte aux médias indépendants, aux libertés publiques, aux syndicalistes, à toutes celles et tous ceux qui se mobilisaient, y compris par exemple des enseignants contre les programmes qui imposaient une vision idéologique d'extrême droite. Il s'en est pris à la justice, il s'en est pris aux journalistes, et donc évidemment ça a favorisé son installation très durable au programme, au pouvoir. Justement, la population hongroise a fini par s'en débarrasser. Bon, moi, j'avoue que j'ai malgré tout quelques craintes par rapport au pouvoir qui est amené à s'installer et à succéder à Orban, parce que malheureusement, c'est un programme qui va sans doute rester un programme assez libéral sur le plan économique,
libéral, oui,
qui risque de ne pas favoriser davantage la population en général et les classes populaires en particulier. Et donc, hélas, on ne peut pas considérer que, ça y est, on peut faire une croix sur Orban, son régime et ses successeurs éventuels.
Disons que ça peut nous donner un petit peu d'espoir. Alors, il y avait d'autres sujets que j'aurais aimé traiter, si vous avez encore un petit peu de temps. Alors, c'est notamment les dénis successifs de démocratie qu'on a connus sous les gouvernements Macron successifs. Donc, c'est la succession des 49-3, c'est les législatives de 2024, c'est le rejet des pétitions comme la loi Duplomb ou tout récemment celle sur la loi Yadan. C'est aussi l'ostracisation de la gauche que j'appellerais réformiste depuis LFI et au-delà. Alors qu'en est-il de la souveraineté du peuple ?
Bon, déjà, on peut se dire, puisqu'on évoquait à l'instant la démocratie, qui est un enjeu absolument majeur, qu'on vit quand même dans une démocratie, certes, mais une démocratie de standards assez faibles, finalement. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même pas une démocratie où il y a une puissance du peuple organisée. Voilà, c'est une démocratie dans ce sens où elle assure des libertés publiques, la liberté d'expression, de réunion, la liberté de la presse. Mais par exemple, rien que se réunir, ça reste compliqué. Il faut des moyens pour se réunir. Il faut l'essentiel est d'ailleurs, l'essentiel est dans la modalité même de désignation de nos supposés représentants qui, de plus en plus, ne nous représentent que très peu, sont très déconnectés du monde social dans toute sa diversité, dans toute sa complexité. C'est une démocratie qui consiste à voter une fois tous les 4 ou 5 ans pour justement de supposés représentants qui ne sont même pas mandatés, hein, qui n'ont pas de mandat, donc qui ne sont pas révocables. Sinon justement aux élections, mais comme ils ont une machine médiatique quand même à leur service, la démocratie est quand même affaiblie, elle est quand même tronquée et biaisée par cette puissance médiatique qui fait que, bah, comme on est en train de le constater avec Bardella, la mise en scène médiatique déjà de Bardella, telle que, voilà, y compris la pipolisation autour de Bardella, comme ça avait été le cas en 2016-2017 pour Emmanuel Macron, qui bénéficiait quand même d'une couverture médiatique gigantesque. Et on sait, hein, qu'il y a au moins un tiers de l'électorat qui ne vote pas pour des raisons politiques pour tel ou tel candidat ou candidate, mais qui vote pour des raisons, en fait, d'imaginaire médiatique, d'image médiatique. Donc ça, c'est aussi une manière d'abîmer la démocratie. Donc je dirais que, pour répondre à votre question, oui, le pouvoir du peuple est quand même assez restreint, et qu'il y a en même temps beaucoup d'espoir dans le fait que, d'abord, il y a une grande conscience de ça, et les différents mouvements qu'on a commencé déjà à citer. Si on reprend le cas des Gilets jaunes, qui manifestaient avec beaucoup de ténacité de samedi en samedi, d'acte en acte, et qui, pour certains et certaines aussi, s'étaient organisés en assemblée des assemblées, mandatant des délégués révocables, etc., avec l'idée aussi du référendum d'initiative citoyenne, avec des idées vraiment de démocratie plus directe, s'inspirant d'ailleurs d'expériences historiques du passé, comme par exemple la Commune de Paris. Eh bien, tout ça est une manière de penser une démocratie qui serait revitalisée. On peut aussi penser à ce qui s'était passé autour du climat. Quand on tire au sort des citoyennes et des citoyens qui vont réfléchir vraiment à des alternatives sur le plan de la protection du vivant, comme ça avait été le cas avec l'initiative d'Emmanuel Macron, mais qui l'a finalement la Convention citoyenne pour le climat, finalement le rapport est resté dans les tiroirs. Mais pourquoi? Parce que c'était vraiment très intéressant. Ça, c'est une forme de démocratie en acte, où des citoyennes et des citoyens réfléchissent, délibèrent, s'informent, s'instruisent, écoutent des experts, et finalement propose. Et c'est un projet qui était vraiment un projet émancipateur et dans une large mesure d'ailleurs anticapitaliste. Et donc c'est pas étonnant que justement les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat soient restées lettre morte. Mais c'est un autre signe que des gens comme vous et moi, à partir du moment où il et elle se rencontrent, délibèrent, ont les moyens de se forger une idée précise des politiques à mener, eh bien, c'est là que vraiment s'incarne la démocratie la plus vivante qui soit.
Allez, on quitte l'actualité. Alors, quand j'étais sur Twitter, moi qui ai une culture historique très basique, pour pas dire nulle, je suivais entre autres comptes ceux de Mathilde Larère, de Laurence de Coq et d'une certaine Ludivine Bantini. Alors, est-ce l'avènement d'une nouvelle génération et les femmes historiennes ont-elles une autre vision de l'histoire ?
Bon, déjà, on n'est plus la nouvelle génération, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de générations qui renouvellent l'historiographie. Disons que voilà, on est à la fois dans l'héritage, dans un héritage, et puis on essaye. En tout cas, moi, ce que je vais pas parler pour les personnes que vous avez citées, ce que j'essaie de faire pour ma part, c'est de rendre l'histoire la plus vivante possible, la plus incarnée, je dirais presque la plus charnelle possible. Ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, ce sont vraiment les femmes et les hommes qui se sont engagés, qui ont eu des projets, des espoirs, des stratégies, qui les ont mises en œuvre. Et j'essaie de varier à la fois les plaisirs de cette histoire et les échelles, essayer de à la fois de camper des scènes par le bas, de voir aussi comment le pouvoir réagit, donc de travailler énormément sur archives. Mais voilà, ça c'est le métier de l'historienne et de l'historien. Les femmes y ont de plus en plus, bien sûr, leur place. Alors là, de ce point de vue, il y a eu un renouvellement profond, hein, par rapport à un moment où seules quelques grandes historiennes émergeaient encore dans les années 70. Hein. Je pense beaucoup à Michel Perrault, bien sûr. Donc là, on est dans une phase tout à fait d'équilibre de genre entre les femmes et les hommes dans la recherche. Et donc, il y a des renouvellements qui sont enthousiasmants, je pense. Mais je ne parle pas pour moi, je parle en général.
J'ai une toute dernière question. Elisabeth, tu aurais une question toi à poser ou...
C'est une réflexion peut-être à creuser. Sur l'Allemagne nazie, en fait, le groupe de Francfort s'est posé la question. Les philosophes se sont posés la question de savoir pourquoi, en fait, les ouvriers avaient quand même voté contre leurs intérêts. Et que j'ai cru comprendre que, en fait, les réponses, elles n'étaient pas très rationnelles et que ça débordait, en fait, de l'aspect rationnel de, qu'on est en train d'évoquer en ce moment. Et du coup, j'aurais bien aimé que peut-être savoir si, en fait, vous avez en fait des éléments par rapport à ça et si vous pouviez en parler un petit peu quand vous viendrez
oui.
À Millau.
Bah, en tout cas, je peux déjà esquisser une réponse à cette remarque. Première chose, c'est que ce ne sont pas tant les ouvriers qui ont voté pour les nazis, hein, mais plutôt beaucoup les chômeurs qui souffraient d'une crise vraiment monstrueuse. Hein. C'était vraiment une crise du capitalisme très intense. Et donc, il y avait un très, très haut niveau de chômage. Et donc, ces chômeurs désespérés ont beaucoup voté pour les nazis. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment important de le souligner parce qu'en fait, la première victime du nazisme, ça a été justement le mouvement ouvrier. Ça a été les syndicats, ça a été les partis de gauche, les militantes et militants communistes, socialistes, anarchistes, libertaires. Dès l'ouverture des camps de concentration en février 1933, donc Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier, il s'agissait d'enfermer. Quand il n'était pas exécuté purement et simplement, des gens de gauche, et donc en particulier du mouvement ouvrier, et donc des ouvriers et ouvrières. Donc en fait, c'est pas majoritairement les ouvriers qui ont voté pour les nazis, ceux qui votaient, donc outre les chômeurs, c'était aussi beaucoup de commerçants ruinés, beaucoup d'artisans, beaucoup de petits patrons, et aussi une partie du grand patronat qui avait les faveurs des nazis et vice-versa. Une grande partie de ce patronat, y compris les plus importants, hein, on pense souvent aux deux grands industriels qui étaient Krupp et Thyssen, dans la métallurgie, dans l'électromécanique, etc. Donc des gros secteurs industriels qui ont financé le nazisme. Voilà. Mais par ailleurs, par rapport à ce que dit Elisabeth, il y a une chose aussi qui est très pertinente, c'est la question de la rationalité. Évidemment, nous, on peut se trouver relativement impuissant par rapport à cette question, parce que tout ce que j'ai expliqué sur le fait qu'il faut documenter, être très précis, qu'est-ce que c'est que ce projet, qu'est-ce que va faire le RN s'il arrive au pouvoir, comment il va, on est sûr et certain qu'il va aller à l'encontre des intérêts des classes populaires. En fait, ce sont pas forcément des arguments qui portent, déjà parce qu'on a du mal à toucher cet électorat. Parce que cet électorat, en général, il consomme littéralement, et je le dis sans aucune condescendance, hein, et ça a été très bien montré, là encore, je cite le travail de Benoît Coquart, ça a été très bien montré, en fait, il consomme du CNews toute la journée, et donc il y a cette banalisation, cette espèce de colonisation des esprits, il y a aussi une dimension... le racisme, donc ce sont des affects, c'est cette idée que au lieu de pointer du doigt les puissants, les plus riches, ceux qui touchent des dizaines de milliards d'aides publiques, y compris de très grandes entreprises qui engrangent des profits gigantesques, ceux qui font de l'évasion fiscale là aussi avec des sommes considérables, plutôt que de viser ces personnes, on va plutôt viser les personnes qui sont supposément en dessous de soi. Les personnes justement qui subissent le racisme, les personnes qui sont dans une situation de telle précarité qu'ils ont une nécessité de recourir à la protection sociale, à des aides publiques. Mais finalement, je dirais qu'il faut retourner l'argument autour de « on est fier d'être français », etc. Mais la France, c'est aussi ça, c'est la protection sociale, ce sont des systèmes de solidarité. Donc, en effet, il y a ce problème de parfois des affects, parfois des émotions qui priment sur la raison. Il y a la difficulté à toucher cet électorat qui va pas forcément aller à nos réunions publiques. Et puis nous, forcément, on n'a pas de grandes chaînes à l'instar de CNews. Hein. On n'en a pas, en fait, hein, parce qu'il faut être multimillionnaire, voire milliardaire hein, pour posséder ces chaînes. Bon, alors je sais qu'il y a Radio Nova, financé par Mathieu Pigasse, qui concurrence très fortement à gauche CNews, hein, qui voudrait être un peu le CNews de gauche, mais enfin voilà, nous on a nos petits bras, quoi. C'est-à-dire on a nos petits bras, nos petits cerveaux, nos petites jambes pour aller, ben voilà, créer des initiatives, discuter, être dans les solidarités locales, et faire ces démonstrations-là. Bon, ça, on n'est pas sûr du résultat, bien sûr, mais c'est une boussole. Il faut le faire, et il faut le faire en écoutant aussi, bien sûr, en étant avec une certaine humilité. Suffit pas de, c'est évidemment pas être donneur de leçons, c'est être humble face notamment aux discours, aux propos que peuvent tenir les électeurs et électrices du RN, qui d'ailleurs le plus souvent, ça aussi ça a été montré par les enquêtes sociologiques, sont les moins politisés, au sens où il y a le moins de connaissances politiques sur la situation, lisent moins, voilà, donc lisent moins de choses politiques, bon. Donc oui, c'est une difficulté qui est particulièrement rude à surmonter. C'est alors, vrai.
Il y a Radio Nova, mais il y a aussi Radio Larzac. Alors vous imaginez que ce nom n'est pas innocent au pied de ce plateau qui a été un haut lieu de lutte contre l'extension d'un camp militaire pendant 10 années. Au cours de vos recherches, avez-vous étudié cette lutte non violente et les actions de désobéissance civile qui l'ont menée à la victoire?
Oui, bien sûr. En fait, dans les années, les années 70, d'une part, sont quand même incontournables, ce qu'on a aussi appelé les années 68, au fond. Hein, c'est-à-dire, c'était un prolongement de l'esprit critique rebelle né de la grève générale de 1968. Les idées aussi très fortes de solidarité entre monde ouvrier, monde rural, monde paysan et étudiants et étudiantes. Donc, c'était des grands moments de lutte émancipatrice avec cette force aussi des croisements d'élus, des rencontres, de sentiments de solidarité active. Et puis, plus tard, justement, Millau en étant le symbole, justement, une des premières luttes contre la malbouffe, avec une force et un courage de l'engagement qui ont été des balises essentielles sur le chemin de ces luttes finalement qui ont anticipé, là on parlait tout à l'heure des soulèvements de la terre, mais qui voilà, il y a des héritages, il y a des filiations, et ça c'est passionnant. Cette histoire elle reste vivante. Il s'agit pas de dire qu'il faut imiter le passé, mais en tout cas il est une ressource vive pour continuer à se mobiliser aujourd'hui, à ne pas perdre courage. Ça nous donne beaucoup d'énergie, je trouve, et Millau en est voilà, justement un exemple extrêmement vivant.
Ben merci Ludivine.
Merci beaucoup, je suis désolée pour les conditions de cette
entretien. Non mais c'est pas grave, c'était très bien. Juste pour la fin, là, pour illustrer cet entretien, je voulais vous demander de nous conseiller un morceau de musique, et je pensais peut-être à une chanson de la Commune.
Ah ben oui, on pourrait laisser entendre que les mauvais jours finiront. Hein.
Par exemple.
Voilà. Ah, très bien.
Par exemple. Ça branle dans le manche.
Ça branle dans le manche. Ok, ben encore un grand merci.
Voilà, merci beaucoup à vous.
Donc, ben on vous retrouve le 28 avril à Millau.
À bientôt.
Avec grand plaisir. Merci de votre invitation. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paname suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mort est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça rend le temps, le manche des mauvais jours. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, champs de boursiers, de coins de rue, amants de filles au rebut, grouillent comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Oui, mais ça rend le dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mer à côté de
châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, palais de rois et d'empereurs. Oui, mais ça rend le don le manche des mauvais jours finiront. Chez l'opéra, vont se refaire concurrence et le bagne se peuplera. Oui, mais ça rend le don, le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les Manon, les Lorette et les dames des porteront sur leur collerette des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça rend le don, le manche, les mauvais jours finiront. Service et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça va le temps, le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça rend le don, le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Ah, il faut que je trouve un truc pour la fin.